Il y a eu un universel réel de l'humanité. Haaretz, Aïta, Aya, non, Vaihi Haaretz, chapitre 11, 10 minutes. Vaihi Haaretz, Rikol Haaretz, Safa Echad ou Dvarim Achadim. Vous entendrez le premier verset du chapitre 11. Il y avait universel humain réel. Cet universel humain a éclaté dans l'échec de la tour de Babel. Je dirais rapidement, révolte contre l'unité, résultat l'égoïme. L'égoïme, c'est le résultat de l'éclatement de l'humanité une. Je ne sais pas si nous allons en parler en détail, mais c'est important. Les Juifs se sont habitués à un faux cliché, que la manière naturelle d'exister des Juifs, c'est la diaspora. Mais d'après l'enseignement de la Torah, c'est la manière naturelle d'exister des goïms. Ce sont les goïms qui sont en diaspora. Et lorsque la diaspora d'Israël apparaît avec sa fonction propre, elle vient se greffer sur la diaspora des goïms pour tenter de la réunifier. C'est un thème pour lui-même et qui est très important. Okay, on est bien. Et je crois que c'est cette évidence qu'on retrouve dans l'identité israélienne. C'est que la manière naturelle d'Israël d'exister, c'est d'être lui-même. C'est la manière d'égoïme d'exister, d'être en diaspora de l'unité humaine perdue. Est-ce que c'est clair? Vous voyez à quel point, au bout de 2000 ans d'inertie de l'habitude, de la force de l'habitude, les Juifs ont fini par se persuader que la manière normale d'exister comme Juif, c'était d'être en diaspora, et qu'un mystère expliqué, c'est cette folie d'Israël de vouloir ne plus être en diaspora. Vous avez compris comment ça s'est inversé? Alors c'était l'inverse. Est-ce que c'est clair? Top. Et alors, on voit que cet idéal de reconstruire l'universel humain traverse toutes les civilisations, travaille toutes les nations. Et l'histoire des Malchouyot, c'est que la tour de rôle, telle ou telle nation, tente de reconstruire l'universel humain. Mais le résultat, c'est l'échec de l'Empire. Quelle est la différence entre l'universel humain et l'Empire? L'universel humain, c'est le projet messianique, unité de l'humanité, avec chaque famille humaine dans son rôle propre. Et Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, Israël, qui réunifie cela. Donc c'est le projet messianique de la Torah qui va commencer avec Abraham. Alors que les empires, c'est une nation occupée à cet idéal de reconstruire l'unité humaine, impose sa manière d'être aux autres. Ça, c'est l'empire. Voilà, c'est clair? Alors la question qui s'est posée à nous, c'est n'y a-t-il pas un échec fatal, et là je crois que le mot est à sa place, d'égoïsme? L'égoïme n'arrive pas à résoudre le problème de l'unité humaine, ça tombe dans un échec perpétuel. Je vous ai cité l'ONU, c'est le dernier échec. L'ONU est une farce qui dans la façade se présente comme étant l'unité humaine. Mais c'est une farce. Est-ce que c'est clair? Tout se passe comme si l'égoïme en tant que tel, et je vais expliquer, je vais essayer, sont condamnés à cet échec dans le rêve de l'universel humain. Alors je dirais, le rêve est le plus souvent authentique. Lorsqu'on étudie les discours des fondateurs des universalismes, on s'aperçoit qu'ils étaient sincères. Leur idéal est sincère. C'est la réalité qui échoue. Et je vais vous donner l'exemple que je donne habituellement, qui me paraît le plus simple à diagnostiquer, l'exemple de la Révolution française. Si vous étudiez les textes fondateurs, on les trouve chez les encyclopédistes, des idéaux de la Révolution française, c'est indéniable, ils étaient sincères. Naïfs, mais sincères. Liberté, égalité, fraternité, le genre humain, unité humaine. Dès que ça se concrétise dans la réalité, c'est l'Empire français, c'est-à-dire la France qui tente d'imposer sa manière d'être en toute naïveté à l'ensemble du genre humain, avec le postulat que j'essaie de formuler, mais ça va de soi qu'être homme, c'est être français. Comment peut-on être persan, on dirait, je ne sais plus qui, Montesquieu. Vous avez compris le problème. Au point que, je demanderai à vos grands-parents, sur les bancs de leurs écoles, dans leurs ghettos ancestraux, ils ont appris que leurs ancêtres étaient gaulois. Mais vous n'avez aucune idée à quel point l'instituteur qui leur enseignait ça était persuadé qu'un vrai ancêtre, ça peut être un gaulois. Ça va pas, c'est clair. Mais je vous dirais, en plus, un gaulois, c'est très respectable quand on est gaulois. Et c'est clair. C'est pas une honte pour une rose de ne pas être une marguerite. Alors, c'est pas de la faute des goïms s'ils ne sont pas juifs, mais en fait, c'est l'honneur des juifs d'être eux-mêmes, comme c'est l'honneur de n'importe quelle fleur d'être ce qu'elle est. Ensemble, ça fait un bouquet. C'est joli en plus. Quand c'est joli, c'est bien fait. Mais imaginez, dans un bouquet, le lys, qui est la fleur d'Eurysée, la royauté française, qui impose à toutes les autres fleurs, vous serez lys,
ou rien du tout.
Alors qu'ils vont rendre tout lisse. Donc, ben c'est ce qui est arrivé. Je me rappelle quand j'étais à l'armée dans un régiment, il y avait des Sénégalais. Et alors, le fin des fins, j'avais un adjudant, c'était fin des fins. Pour l'adjudant sénégalais, à l'époque, quand il était en permission, il se mettait en civil. Alors il lui fallait des lunettes et un parapluie. Et un canotier. Parce que c'était l'image du français universel. Alors comme il avait de très bons yeux, il avait des lunettes mais sans verre. Et puis en plein été, il avait un parapluie et un canotier. Je suis sénégalais français. Bon, les Sénégalais se sont réveillés de ça, grâce à Dieu. Mais quoique, ok, mais les Juifs, ça continue. Okay. Ils se prennent pour des Français en France, pour des Allemands en Allemagne, etc., etc. Mais que c'est l'impérialisme. C'est l'échec de l'universalisme. Alors le drame, c'est qu'à l'échelle individuelle, les penseurs de l'universalisme avaient un idéal authentique. Et Dieu sait combien de Juifs ont été séduits par l'idéal universaliste des fondateurs de l'universalisme. Okay. Et pourtant, dès que ça commence à se concrétiser, c'est le cosmopolitisme impérialiste. C'est pas plus compliqué. Et l'exemple qui me frappe terriblement, quelques années après la Constituante, l'Empire français. Et vous savez que c'est pas une blague. C'est l'Empire qui a réalisé les idéaux de la République. Bon, en Russie, c'est la même chose. La Révolution d'Octobre, l'universel absolu. Et l'idéal marxiste théorique, donc communiste soviétique plus exactement, est indéniable dans les mots. Dès que ça commence dans la réalité, c'est l'Empire soviétique. Il n'y a pas d'exception. Voilà, vous avez compris la différence. Le cosmopolitisme, ça veut dire, on n'est pas d'identité universelle. On a une espèce de... Je cherche mes mots parce que ça vous ferait penser à des choses antisémites, mais je les dirai, les protocoles des salles de Sion. Okay. On a une mafia internationale entre identités nationales différentes, les multinationales, c'est du cosmopolitisme. Okay. Mais, par exemple, les Juifs français se considèrent comme français, pas comme Israël. Les Juifs allemands comme allemands, les Juifs britanniques comme britanniques, les Juifs américains et canadiens comme leur goïm. Et puis, ils ont une mafia entre eux, c'est du cosmopolitisme. Il n'y a que la nation d'Israël qui a une identité universelle. L'échec du peuple juif, c'est d'être devenu cosmopolite en prétendant être universaliste. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Bon, voilà. Je vous raconte un petit souvenir qui me revient de ma propre vie, sur un autre registre, mais ça ressemble. Je me suis longtemps occupé du centre Rachi à Paris, vous avez entendu parler, la rue Broca. C'est à Broca d'Abran, mais ça existe. Okay. Donc, et alors, quand on a, dans les programmes, instituer les ateliers des langues juives, yiddish, ladino, judéo-arabe, etc., j'ai exigé qu'il y ait ulpan. Parce que s'il y a ulpan en hébreu, et d'ailleurs l'ulpan marche mieux que les ateliers en question, s'il y a ulpan en hébreu, alors les cercles d'études des langues juives, ça ne peut être qu'un enrichissement de l'identité juive, qui est d'origine hébraïque, et d'essence hébraïque. Mais s'il n'y a pas l'hébreu, alors le ladino c'est de l'espagnol, le yiddish c'est de l'allemand, et je de l'arabe, c'est de l'arabe, et pas plus, mais couda. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, le yiddish, le ladino, le judéo-arabe comme tel, c'est du cosmopolitisme. Avec l'hébreu comme facteur d'unité, c'est l'universalisme. Ça veut dire qu'un hébreu peut parler arabe, peut parler yiddish, et c'est à lui, mais un yiddish ne parle que yiddish, et c'est de l'allemand. Et un judéo-arabe ne parle que judéo-arabe, et c'est de l'arabe. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Okay? Voilà la différence entre l'universel. Il n'y a que l'hébreu qui est universel. Les langues juives, c'est du cosmopolitisme. Tant que c'est rattaché à l'hébreu, c'est un enrichissement. Dès que c'est coupé de l'hébreu... Et d'ailleurs, l'université française, c'est que les Français sont très clairs, qu'elle rattache le yiddish au département des langues germaniques, le judéo-arabe au département des langues sémitiques, etc., le ladino au département hispanique. Est-ce qu'ils auront idée de mettre ça avec les chairs d'hébreu? Jamais de la vie. Pour eux, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Bon, alors c'est clair. Voilà la différence entre cosmopolitisme et universalisme. Alors ce qu'il y a, c'est que il y a à comprendre pourquoi il n'y a pas de solution. Bien, c'est parce que le véhicule, dans la réalité, de ce rêve de l'universel, est un véhicule particularisé, conditionné, déterminé. la manière d'être homme français est très spécifique. Elle ne peut pas être le véhicule de l'homme universel. Elle peut être le véhicule du rêve de l'homme universel, mais dans la réalité, c'est l'impérialisme de la carte d'identité française. C'est-à-dire, j'ai connu tous ces instituteurs radico-socialistes de la Ligue de l'enseignement républicain, je ne sais plus comment on les appelle. Ils étaient, du point de vue de leur rêve, persuadés que leur manière d'être homme, c'est l'homme universel, et que c'est ça qu'il faut apporter aux primitifs qu'on allait coloniser. Et vous savez qu'est-ce que c'est le colonialisme ? C'est continuer avec les enfants des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les nations colonialistes, c'est des nations qui n'ont plus d'enfants et qui continuent avec les enfants des autres. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Donc, bon, réfléchissez par vous-même. Mais alors, il y avait une sincérité naïve inouïe. Moi, j'étais un peu vacciné, enfin protégé, parce qu'en même temps que j'allais à l'école française, j'allais au Talmud Torah. Et alors, quand j'entendais le professeur de grec ou de latin raconter ce qu'il racontait des Hébreux quand il parlait des Hébreux, j'étais vacciné parce que moi j'entendais ce qu'au Talmud Torah on disait des Grecs et des Latins. Ça n'a pas mordu. Mais vous n'avez aucune idée à quel point les petits juifs se sont laissés éblouir par ça. Être homme, vraiment, c'est être français. Ou dans l'ère allemand, germanique, être homme, vraiment, c'est être allemand. Je connais beaucoup de juifs allemands, même dans le pays. Ils sont persuadés que les seuls goy dignes, c'est les Allemands. Ils ont des problèmes. D'abord, les Allemands, c'est les Allemands. Et alors, un juif français, qu'est-ce que c'est que ça, ces mangeurs de grenouilles ? Un juif allemand, ça c'est le goy. Vous avez compris ce que je veux dire ? Et les juifs ne veulent pas qu'on change leur goyisme. De la même manière que chaque goy a son juif, chaque juif a son goy. Alors voilà, il faut sortir de ce délire. Hein ? Ça, c'est l'égoïsme. Et d'autre part, il y a Israël, qui a une histoire tout à fait, et qui commence avec Abraham. Alors, ce que nous apprenons là, c'est que le projet des empires ne peut arriver chaque fois qu'à l'échec dans ce projet de l'universel humain. Pourquoi ? C'est pas possible autrement. Parce que chaque nation a une équation d'identité humaine trop partielle par rapport au projet de l'universel. La seule identité capable d'être universelle, d'après le récit biblique et d'après l'histoire, c'est l'identité d'Israël. Et la preuve, c'est que les descendants d'Israël sont capables d'être n'importe quel homme, autre homme à la fois. Ce qui n'existe dans aucune nation du monde. Ce que j'ai dit négativement, un juif qui se prend pour un français, mais il n'y a que les juifs qui sont capables de ça, d'être simultanément n'importe qui. Un français ne sera jamais qu'un français, même s'il est citoyen allemand. Okay ? Alors qu'un juif, et c'est le mystère d'identité juive, est plus goy que son goy, de chaque goy. Je ne sais pas si c'est clair celui-là. Bon. Je vais raconter une histoire pour montrer à quel point ça se mélange de racisme quand on est cosmopolite. J'étais une fois en train d'expliquer ça il y a une dizaine d'années à Strasbourg. Vous savez qu'à Strasbourg, depuis la dernière guerre mondiale, il y a beaucoup de sfaradim qui sont venus rapatrier alsaciens. Je ne sais pas quand c'était leur patrie, mais enfin, tant. Et alors j'étais en train d'expliquer cela, sous une autre forme bien sûr, que lorsque les juifs se rassemblent, ils se rassemblent à Jérusalem, bien sûr, ils rassemblent les manières d'être hommes qu'ils ramènent avec eux, et qui a une portée messianique dans le retour. J'ai compris. C'est un phénomène à l'échelle de la municipalité israélienne, où on vit, avec les difficultés que ça implique, mais où on vit ce que l'ONU n'arrive pas à faire. La cohabitation des différentes manières d'être hommes, c'est un problème municipal en Israël. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Bon. J'ai expliqué ça. Et chaque juif revenu de son exil ramène les valeurs des civilisations goy dont il s'est imprégné. Et c'est pourquoi il y a un problème de tri à faire entre le bien et le mal, entre l'impureté et la pureté, et que les juifs qui reviennent doivent apporter les valeurs et pas les contre-valeurs. Voilà, c'est clair ? Non. Et malheureusement, on ramène des tas de contre-valeurs, mais ça se décante ici. Il y a une prophétie d'Ézéchiel qui dit « Je vous ramènerai estropié, bancal, aveugle, ici je vous arrange. » C'est la même chose. Et vous connaissez ces versets-là. Donc, je dis autrement, je vous ramènerai impur et ici je pourrai vous purifierai. Ces versets clairs. Et le Mikvé, c'est ici. Mikvé Israël. Donc. Et alors, il y a un juif marocain, un Tamir Hacham d'ailleurs, qui se lève au fond de la salle avec un accent marocain de derrière les fagots marocains, qui me dit, mais qu'est-ce que je vais ramener les valeurs du Maroc ? C'est une Alors je lui ai répondu, tu préfères ramener les valeurs de l'Alsace. C'est du racisme. C'est-à-dire les valeurs de l'Alsace, il les ramènera. Les valeurs du Maroc, ça c'est arabe. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le cosmopolitisme. Bon, j'espère que vous n'avez pas reconnu l'accent de qui je parle. Il n'y a pas de Strasbourgeois aujourd'hui. Hein? Puis de Ville. C'est un grand ami Chacham. Alors, il était stupéfait de découvrir qu'il y avait du racisme là-dedans. Est-ce que c'est clair? C'est pas plus déshonorant d'être alsacien que marocain. Il ne faut pas être raciste. Vous avez compris, moi aussi. Et alors là, au contraire, moi j'ai connu l'identité marocaine d'origine, ce sont des aristocrates, les goyes marocains. C'est évident. Et par conséquent, parler d'eux comme si on préfère d'être européen des bordurins que Meknès, Dobdou et Sefrou, c'est du racisme. Est-ce que c'est clair de dire? Mais c'est un racisme qui est introduit par le cosmopolitisme. On est séduit par la civilisation brillante du temps. Strasbourg. Hein? Le verre qui miroite, là. Vous connaissez un peu l'allemand. Et je reviens au problème. De quoi on parlait? Ah oui, Nimrod. Alors, vous voyez, Nimrod, dans son projet de l'Empire, a un ennemi mortel, l'Israël messianique. Alors, c'est pas pour rien que chaque fois qu'un empire se constitue, quelle que soit sa xénophobie pour les autres manières d'être homme, il y en a une en particulier qu'il veut détruire. Parce que c'est l'antagoniste absolu, c'est Israël. Vous avez compris le problème? Pourquoi Nimrod, en tant que Nimrod, c'est Abraham qui veut jeter dans la fournaise. On retrouve ça avec tous les Haman de l'histoire, Hitler, etc. C'est quand même inouï que lorsque l'Allemagne a voulu fonder son empire universel, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait dans le collimateur? Les juifs. Et comme les chrétiens, ça ressemble, les chrétiens avec. Et les gitans, ça ressemble, les gitans avec. Mais qu'est-ce qu'ils visaient? L'identité juive. Vous avez compris le problème? Alors ça, c'est Nimrod. Ça va, je crois que vous arrivez. Bon, j'ai pas le temps de commencer avec Ishmaël. Celui-là, on a une histoire longue à régler. Mais si vous avez encore des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, il nous reste 10 minutes. Hein? Alors, j'ajouterai quelque chose. On va, comme d'habitude, on le fera assez souvent, s'interroger sur le sens du mot Nimrod. De quelle racine ça vient? Mais qui va dire? C'est cela, la révolte. Le révolté. Nimrod, ça veut dire le révolté. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Albert Camus, Le Révolté. Bon, ça va maintenant. Et alors? Alors, on retrouvera d'ailleurs ce profil d'identité chez Ésaü. Alors, je vais un peu paraphraser pour schématiser ce type d'identité. Et nous avons, chez Abraham et chez Nimrod, une expérience existentielle analogue. La révolte contre l'état du monde. Mais la conséquence de cette expérience, être révolté de l'état du monde, du chaos, du kilkour, je vais en dire, le monde détraqué, la conséquence est très différente. La révolte de Nimrod contre l'état du monde, c'est pourquoi je vous ai cité Albert Camus. C'est un des exemples, vous pouvez lire cette expérience de la révolte qui mène à la volonté de puissance du matérialisme. La révolte de Nimrod va contre le créateur d'un tel monde qui est dans un tel état. Alors, c'est clair. Bon. Alors que la révolte d'Abraham contre l'état du monde le transforme en serviteur du créateur pour réaliser le projet du créateur contre l'état du monde. Vous voyez la différence? Alors, c'est pourquoi la Torah va nous mettre au même niveau l'identité de Nimrod et l'identité d'Abraham. Or, il est indéniable que chaque fois que le tyran, le Rodan, comment dire ça dans le même vocabulaire, le Meller, apparaît dans l'histoire, ça peut être c'est Nimrod, c'est Paro, c'est etc., etc., eh bien, il apparaît avec deux ennemis, le Créateur et les Juifs. Et c'est... il n'y a pas d'exception. Regardez, la civilisation nazie se définit comme ça. C'était le premier système dans les temps modernes, matérialiste, athée, anti-juif, ça va ensemble. Les Russes ont suivi. La mentalité marxiste, c'est la suite. C'est un régime politique matérialiste, athée, anti-juif. Et quelles que soient les différences de style, parce qu'un Russe, c'est pas un Allemand, et un Allemand, c'est pas un Russe. L'âme allemande et l'âme russe, ça n'a rien à voir. Mais leur type d'empire, c'est le même. Etc. Alors, voilà donc ce qu'il venait diagnostiquer. Le Nimrod, qu'est-ce qu'il devient? Et on va le retrouver chez Ésaü. Et puis, Abraham, cet effort de faire réémerger le Ha'eved Aboré, le Ha'eved Hashem, qui est le Ivri de Pilobé.
Pour en revenir aux Russes et aux Allemands, tout à l'heure, on avait évoqué l'identification de la vallée. Guy avait posé la question à savoir le peuple palestinien, et vous aviez répondu ce sont leurs alliés, à savoir.
Non, ce que je voulais dire, c'est que les autres étaient les alliés des Palestiniens.
C'est-à-dire, c'est pas par hasard qu'ils aient suicidé, qu'ils soient été par des ingénieurs allemands, et si les armes sont russes.
Quel que soit, si vous voulez, les explications partielles qu'on peut donner. Il y avait des ingénieurs allemands après la défaite de l'Allemagne qui cherchaient du travail. Alors ils sont arrivés en Égypte ou en Syrie, que c'est pas l'Amérique qui vend tellement les armes aux Arabes, mais c'est les Russes. Et donc on peut expliquer partiellement, il n'en reste pas moins qu'il y avait une constellation. Ce que je veux dire, pour moi, ça va tellement de soi que c'est l'identité dite palestinienne aujourd'hui, parce que le projet est déclaré. Vous devriez étudier la Amana palestinaïde. Le projet est déclaré, supprimer Israël et le remplacer. Eh bien, ça ne peut pas ne pas être frappant que de voir qu'ils ont comme allié objectif les Russes et les Allemands.
Ouais. Ça, c'est comme allié objectif, je veux dire, au niveau des armes, peut-être au niveau de logistique.
Oui.
Maintenant, en ce qui concerne les armes idéologiques, ça serait faire quand même plus ou moins à l'Occident, quoi, surtout à l'Europe.
Qui est palestinien? Je mets de l'appui.
Pourquoi? Écoutez, par exemple, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Écoutez, je crois qu'un des ennemis principaux, ça c'est la propagande, hein, c'est vrai. Parce que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, jamais aucune civilisation islamique, palestinienne y compris, n'a jamais admis le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
C'est-à-dire dans les faits, peut-être, mais...
Bah, oui, c'est ça la propagande. Mais ce que je veux dire, c'est que la... Attends, quand tu parlais juste avant, ça m'a fait penser... Deux questions à la fois, c'est trop pour moi. Je voudrais quand même répondre à la question d'avant, il faut que je me revienne. Le pire ennemi d'Israël, dans cette constellation des 22 pays arabes, vous savez qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet, il y en avait une troisième. Eh bien, c'est la Libye. Or, c'est pas par hasard, c'est grotesque, c'est caricatural, que la Libye se présente comme l'alliance entre l'islam et le marxisme. Dans les faits, et la haine qu'il y a entre Kadhafi et l'Amérique, c'est très profondément là-dedans. Et alors, quand ça n'empêchera pas Kadhafi d'avoir dans sa propagande des tirades anticommunistes, mais parce qu'il se présente comme le vrai communiste. Et réfléchissez bien à tout ça. C'est une manière d'être homme qui fait une constellation pour elle-même. Et alors, notre effort à nous, juifs, c'est de lire cet événement par rapport à nous. Et par rapport à nous, il y a une cohérence terrifiante. Attendez, je vais finir encore une phrase. J'aurais tendance à dire que chez les Arabes, qui sont véritablement de tendance pro-occidentale, il n'y a pas cet anti-israélisme dangereux qu'on trouve chez les autres. Et je parle même des Arabes israéliens. Mais c'est très rare, un Arabe qui est vraiment d'imprégnation occidentale et qui soit libre de s'exprimer. Parce qu'il y a aussi le djihad islamique qui les empêche de parler. Donc on n'a aucune idée devant quel monstre on se trouve. Et ce n'est pas des idées, c'est des options de... C'est-à-dire, s'il n'y avait pas l'armée israélienne dans ce pays, il y a longtemps qu'il n'y aurait pas un seul juif. Ils auraient été massacrés, les juifs. Il faut bien le savoir. Ce n'est pas des questions d'idéologie, c'est une question de Ishmael Yitzhak, qui sont étudiés dans le texte. Bon, j'ai un peu ce privilège que moi je suis né dans un pays musulman, et donc je connais l'islam de l'intérieur, pas comme un occidental qui projette sur l'islam des catégories européennes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut connaître intimement ce que c'est que... Et la sainteté musulmane, ça existe. C'est un autre problème, j'en parlerai après. Le Ishmael Tzadik, c'est une notion de la Torah. Comme ça existe, mais... De projeter sur l'identité islamique en général, Ishmael en particulier, palestinienne dans le temps contemporain, des catégories de réflexes politiques de type occidentaux, je crois qu'il y a une erreur de méthode. Mais ça, on l'étudiera plus en détail. Ça vaut la peine que vous étudiez un peu, on le fera ensemble, la différence de conception de la théologie chrétienne et de la théologie musulmane, et qui n'ont rien à voir ni l'une ni l'autre avec la théologie juive. Et par conséquent, ces espèces d'amalgames judéo-chrétiens, judéo-musulmans, c'est de l'amalgame, c'est-à-dire d'escroquerie au niveau intellectuel. Ça ne fonctionne pas de la même manière. On verra dans l'identité d'Ishmaël. Vous aurez des surprises, comment les rabbins du Midrash ont diagnostiqué cela il y a longtemps. Ça ne signifie pas que la civilisation musulmane, islamique, disons, pas musulmane, n'est pas sa valeur propre, ne soit pas séduisante. Moi, je suis né là-dedans, et je peux vous dire qu'elle a une séduction propre qui dépasse la civilisation romaine. Et seulement quand on était habitué à la civilisation romaine, on ne sait pas ce que c'est que la civilisation islamique, tout simplement. On en parle avec des mots. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, ma musique intérieure, c'est la musique arabe, c'est pas la musique allemande. Et pourtant, je m'appelle Ashkenazi. En arabe, en juif, hein. Et ça s'appelle Andalou. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bien. Est-ce qu'il y a une autre question?
Oui. Moi, ça, on voit les prises de position pratiquement du monde entier pour Israël.
Oui.
Sur partie de. J'aimerais savoir. Est-ce que tous les pays sont contre Israël? Est-ce que tous les pays sont contre
Israël? Ça, il n'y a que les prophètes qui savent. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci. Cette unanimité, dans une hypocrisie aussi fondamentale, ne peut pas ne pas. Zéomer d'Archénie, comme on dit en français, c'est significatif. C'est-à-dire que semble-t-il, l'humanité, depuis la Shoah, cherche n'importe quel prétexte pour se déferler contre les Juifs d'Israël. Je dis bien les Juifs d'Israël en disant, c'est vous les nazis. Vous avez remarqué ça? Bon. Et c'est encore une fois Herzog, et Dieu sait que Herzog, le chef de l'État, il est un homme de gauche, lui, ne s'est pas gêné pour dire, vous êtes tous des hypocrites. Le chef de l'État dit ça au Goyim, tout le monde. Moi ce que je voudrais ajouter, et tout le monde le sait d'ailleurs, c'est l'hypocrisie absolue, c'est très inquiétant, parce que ça dévoile un antisémitisme refoulé, à cause de la honte après la Shoah, et qui est très inquiétant. Si on les laissait faire, eh bien, ils nous avaleraient vivants. On retrouve cet enseignement du Talmud, Halakha, Esav, Sonet, Yarako, Gamarnou, Nekuda. Il faut en tenir acte, et en tenir compte, et être lucide. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que d'un certain côté, c'est rassurant. Parce que la Torah nous enseigne, quand il arrive des coalitions de ce genre, Israël est seul. Am Bada Dishko. Tant qu'on n'a pas intégré cela, on ne peut pas casser Israël. Alors moi, en tout cas, personnellement, ça me rassure quand il y a unanimité contre nous. Parce que tant qu'on a un allié, fût-ce l'Amérique, c'est bancal. Au moins, enfin seul, ça va mieux. Je ne connais pas ce que tu me l'as. Et c'est ce que disent les mariés, enfin seul, le soir du mariage, avec la Shrina. Et il faut avoir, j'allais dire, ce courage. C'est pas du courage, c'est comme ça que nous sommes. C'est-à-dire, tant que nous avons des alliés, c'est suspect. Et quand il y a une unanimité pareille, ça rassure. J'espère que je vous ai rassuré. Il y a une loi dans le Talmud. Quand quelqu'un est condamné à l'unanimité, c'est qu'il est innocent. C'est clair, pas chou.
C'est ça, voilà, qu'on ne le condamne pas. C'est que la sanction, c'est tout ça.
Et pourquoi? Parce que ça veut dire, au regard du jugement des tribunaux humains, il est innocent. Le Baruch, et c'est de ça qu'il parle. Tu parles, la propagande de ces hypocrites-là, c'est les tribunaux humains. Tout ça, il faut que vous appreniez. Je veux dire, c'est pas seulement le problème de la religion, qui manquerait ou qui manquerait pas. Simplement, pour que vous sachiez que ces choses-là, en tout cas, pensées, intégré, enseigné depuis des millénaires dans la tradition juive. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, ces choses-là. Et les rabbins ont été avertis au diagnostic de ces événements. Je sais que les juifs sont impressionnés par cette unanimité. Je pourrais vous raconter des tas d'exemples de grands rabbins des pays étrangers qui sont, comment dire, en colère contre Israël parce que ça les gêne dans leur rapport avec leur goyim. On n'arrive pas à faire les affaires qu'on voudrait faire avec eux. Alors, il faut quand même être lucide. Il y a des, Il y a des défauts qui se dévoilent dans des moments. Les Français disent cruciaux. Mais... Attends, il n'y a pas fini.
Par exemple, quand il y a eu l'attaque nazie, on voit que par exemple le Danemark n'a pas voulu. Il y a quand même. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'il y aura une certaine prise de conscience par certains pays?
Et alors, je pense que tu fais allusion au parti chrétien socialiste du Danemark, qui a condamné Israël il y a quelques jours, si c'est ça que tu as lu dans les journaux. Alors, qui a condamné Israël? C'est pas le Danemark. C'est le parti chrétien socialiste du Danemark, dans la coalition politique de comment ils appellent ça, j'ai oublié, de la Knesset du Danemark. Sachez une chose, c'est qu'il y a énormément de goyim qui sont solidaires avec Israël, mais qui ont les yeux ouverts. Mais le pouvoir appartient aux états-majors des partis, aux états, à la hiérarchie des églises, et n'appartient pas aux consciences honnêtes chez les goyims. On n'a aucune idée du nombre de lettres qu'on reçoit en Israël, de solidarité, même, ça nous vient même de musulmans, de solidarité avec Israël, mais à l'échelle individuelle. Et nous avons beaucoup d'amis, mais ils sont tous impuissants, parce que le pouvoir, ça appartient aux organismes d'intérêt. Et une nation n'a pas d'amitié, elle a des intérêts. Il y a beaucoup de Français qui sont amis d'Israël. La France a des intérêts avec les Arabes. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et c'est vrai de tout le monde. Alors vous voulez qu'on soit impressionné par faire Shaim? En même temps, on sait que c'est l'hypocrisie absolue. Encore une fois, c'est une erreur profonde de croire que quand un menteur dit ce mensonge, il faut qu'on en tienne compte comme si c'était la vérité. Et alors, ça fait un mensonge de plus. Vous savez, on a connu dans notre histoire même récente des péripéties 100 fois pires que ça, qu'on est en train de vivre depuis quelques semaines. Et oui, maintenant, il va cher. Tu connais le verset. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que ça me rappelle, mais je ne sais plus qui a dit ça. On a défini les jésuites. C'était un anti-jésuite, ça devait être un dominicain. Il a dit ça. Un jésuite est capable de mentir même quand il dit la vérité. Alors méfiez-vous des jésuites. Alors, la dernière, parce que vous avez faim.
Si vous avez quoi, je suis pas beaucoup assolé par cette douce réseau vraiment sympathique qu'on nous promule. Mon problème, c'est l'intérieur. Comment je fais? Qu'est-ce qu'il faut dire exactement pour que ce soit entendu de la part de nos propres frères, pour que dans cette situation, il n'y ait pas de...
Je crois... Là encore, c'est pas la première fois que ça arrive. Et je crois qu'il n'y a rien à faire, c'est perdu. La seule chose qu'on peut leur dire, c'est viens ici voir ce qui se passe. Okay? Jette ton passeport et viens. Attends, ça revient au maire. Je veux dire, il n'y a rien de plus, comme on dit en français, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. L'expérience m'a montré que chaque fois, quand on est à l'échelle individuelle, en dialogue individuel, une analyse élémentaire suffit à démystifier les attitudes. Ça plonge très profondément. Ils ont un problème avec Israël qui dépasse ces histoires-là, qui n'a rien à voir avec ça. Et ça, c'est des prétextes. Alors, il faut plonger sur l'analyse qu'as-tu avec Israël. Et même ceux qui sont ici dans le pays. Tu as compris ce que je veux dire? Tout le monde va. En général, bon, ce sont des problèmes d'analyse psychologique. Je sais pas si tu te trouvais une fois. Peut-être que j'étais dans un... Attends, tu te rappelles ce milieu, j'ai oublié. Un petit mouvement de Genève à Paris qui s'appelle... Darkenou. Vous étiez là-bas?
Non,
une fois, j'étais avec une délégation israélienne et j'ai parlé d'une une conférence. Et puis, je me suis trouvé en lutte à une opposition psychologiquement morbide. Okay. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Alors, une image de l'enseignement que nous avons reçu d'ailleurs, qui m'est revenue, et que je l'ai dit, et je crois que la leçon a servi pour certains d'entre eux d'ailleurs, comme ça, c'est quelqu'un qui s'est levé, un espèce de Baal Tshuva, je ne sais même pas si ce n'est pas un guerre malgré aussi, malgré, je ne peux pas dire. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont pas finis leur tahalir, mais alors ils se prennent plus tzadikim que je sais pas quoi. Je parle des baréchouva. Et alors ils se lèvent et ils disent, mais nous voulons avoir des garanties qu'on pourra manger kasher chez vous. Ah. Alors je lui ai répondu, tu sais, quelqu'un qui demande des garanties pour entrer chez sa mère, c'est que peut-être c'est pas sa mère. C'est pas plus compliqué. Alors il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, tu demandes des garanties pour entrer chez ta mère? Rentre chez ta mère et après tu verras. C'est clair? C'est trouble ce qui se passe là-bas. Alors, dans cette opinion, alors il ne faut pas se laisser impressionner. Je crois que il y a eu dans notre histoire pire que ça. Il n'y a pas pire haine de soi que chez les Juifs quand ils sont malades psychologiquement. Et c'est une maladie psychologique. Vous savez, 2000 ans d'exil, ça nous a délabré les nerfs. Alors il y a des névroses. Bien, eh bien, j'espère que vous allez manger avec appétit.